Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous et Shavua Tov, on se retrouve comme chaque semaine pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive, et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Bonsoir Raveli Lemel, Shavua Tov.
Shavua Tov.
On m'a demandé de préciser, donc je le fais avec plaisir, que cette émission est évidemment enregistrée. Pour moi, ça me semblait tellement évident, mais je le fais par respect pour vous, Rav Lemel, et bien sûr pour tous les participants à cette émission. Et donc, je vous souhaite au passage plein de bonnes choses. Rav Eli Lemel, on avance, comme chaque semaine, dans le survol de notre paracha hebdomadaire, le passage qu'on lit dans nos communautés. Là, aujourd'hui, on a lu Vayeshev. Et ça traite beaucoup de Yosef. À se demander d'ailleurs si c'est pas la paracha de Yosef, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a Miketz aussi après qui va venir. Et c'est le moment où Yosef parle de ses rêves à ses frères, et ses frères le prennent très mal. Vraiment, c'est d'ailleurs, ça va finir en drame. Et vous dites, non, bon, il faut revenir sur cette histoire. Et essayer de comprendre quels sont les enjeux et des rêves, et de la façon de le dire aussi, et de la façon de les recevoir ensuite. Donc on vous écoute, Raveli Lemel.
Exact. Donc on est dans la paracha dans laquelle, en effet, va commencer ce qui va être, comme vous le dites, un drame dans l'histoire du peuple d'Israël, puisque qui n'existe pas en tant que peuple tel quel, mais cette fameuse Sinat Achim, cette fameuse haine des frères par rapport à Yosef, avec toute cette conséquence d'un Yosef qui se retrouve en Égypte, qui se retrouve, au fond, c'est le préambule de l'histoire de l'exil qui se passe là, et c'est intéressant de voir que à l'exil est toujours liée cette notion de sina, de haine, d'incompréhension, de rupture, de tension. Alors évidemment, il y a derrière le plan divin, il y a en effet tout le projet d'Akadosh Baruch Hu qui est présent à l'intérieur de cela. Là-dessus, personne n'a aucun doute, mais il peut se passer de différentes manières, et quand la Torah nous relate au fond cet épisode, eh bien elle nous interpelle, elle nous amène à réfléchir. Au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que si on voit, entre guillemets, les choses, j'aime pas le dire de cette manière, mais de manière objective, oui, Yosef semble être clairement le préféré du père, il y a cette fameuse tunique multicolore, et puis il y a un Yosef qui arrive chez ses frères, un jeune homme dont on dit qu'il a 17 ans, il est là, et puis il essaie de jouer un rôle, il défend les fils des servantes, il est là, il intervient, et puis à un moment il dit des choses, et puis donc relate ces deux rêves, et qu'on le veuille ou pas, ces deux rêves ont une dimension quand même signifiante très forte. Quand on les entend, si quelqu'un vous dit, voilà, quelqu'un m'a dit qu'il est au centre, que le soleil, la lune, les étoiles, et puis 11 étoiles, et puis je suis au centre, et puis tout le monde... Ou alors l'histoire des gerbes, la personne dit, bon, on aurait tendance à dire pour qui il se prend. C'est vrai que quand on entend ça, on se dit, bon, ben, c'est quelqu'un qui veut faire passer un message, il est au centre, et puis voilà, tout le monde doit se tourner vers lui, et puis l'histoire va tourner autour de lui. Et là, évidemment, les frères ont une problématique lourde, c'est que derrière cela, ils se demandent si Yosef n'est pas en train de complètement... déstabiliser le système, puisque a priori c'est pas à lui d'être le roi d'Israël, c'est pas de lui que va normalement émerger ceux qui vont le diriger. Donc il y a vraiment une inquiétude chez eux, et donc ça va aboutir à ces décisions très très fortes quand il arrive de le mettre plus que de côté, puisqu'il y a même à un moment l'idée de le faire disparaître, et puis après ça se transforme dans cette vente. Au fond, qu'est-ce qui se passe ici? On est de nouveau, il y a encore, confronté à toute la problématique de l'interprétation. C'est quelque chose dont on a déjà d'ailleurs parlé, et je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut revenir de manière récurrente, sur le problème de l'interprétation, de la lecture que l'on va faire, et qui va donc générer toutes sortes de conséquences. Et c'est là où, en effet, on a une leçon qui nous concerne. Évidemment, au niveau des frères de Yosef, il y a autre chose qui se passe, c'est le plan d'Hachem qui se met en place, mais par rapport à nous. Combien de fois, eh bien, les ruptures, les dissensions, les tensions se construisent autour d'une parole, autour d'un geste, autour d'une posture, et évidemment que l'on va décidé d'interpréter de telle et telle manière. Et donc, évidemment, à ce moment-là, cette interprétation n'est plus une hypothèse, elle devient souvent une forme de certitude. Et sur la base de cela, eh bien, on déroule. On déroule parce que, donc, ça veut dire, et puisque ça veut dire, alors il est normal que. Vous savez, un petit peu cette manière de fonctionner. S'il a fait ça, s'il a dit ça, ça veut dire que. Et donc, si ça veut dire que, évidemment, il est normal que je réagisse de telle et telle manière. Et donc, on a ici une problématique qui n'est pas simple, c'est que la personne ne s'interroge même plus sur la justesse de sa propre démarche, parce qu'elle l'a validée à travers la lecture qu'elle a eue de l'événement et sur lequel elle n'a pas d'autre hypothèse en tout cas. Et c'est là où peut-être il va y avoir quelque chose d'intéressant. Parfois, on n'est pas prêt à envisager une autre hypothèse de lecture parce que celle que l'on a nous intéresse bien. Ça m'intéresse bien d'interpréter cela de telle manière parce que ça me permet à moi-même de fonctionner comme je le désire, ça me permet de justifier parfois certaines formes de dysfonctionnement. Je vous donne un exemple tout simple. Imaginez un patron qui est un peu bourru, n'a pas trop l'habitude de saluer de manière sympathique celles et ceux qui travaillent avec lui. Les gens ont l'impression parfois, pardonnez-moi l'expression un peu légère, qu'il les jette. Eh bien, évidemment, quand on le voit de cette manière, on dit, bon, ben, au fond, c'est qu'il ne nous aime pas vraiment, c'est qu'il ne nous calcule pas, c'est qu'il nous considère juste comme des ressources humaines et rien d'autre. Donc, on se sent beaucoup moins mal à poser des congés qui n'en sont pas toujours maladies et ce genre de choses, puisque au fond, au regard de sa manière de fonctionner. Mais imaginez que l'on ait un jour une autre lecture et que ça, c'est peut-être plus l'expression d'une forme de timidité de sa part, et que si on lui disait comment est-ce qu'on le vit, ben, peut-être qu'il changerait totalement et qu'il ferait cet effort. On se sentirait beaucoup moins à l'aise d'avoir les fonctionnements qui sont les nôtres par rapport à cette personne. Parce qu'on n'aurait plus cet élément de justification qui est basé sur une interprétation de ce que l'on a pu voir. Et ici, ça en trouve on est dans un domaine d'application qui est extrême, puisqu'au fond, les frères savent très bien que la décision qu'ils vont prendre par rapport à Yosef est lourde, et à la fois pour Yosef et aussi pour leur père. Et on voit bien qu'ils ne sont pas du tout insensibles. C'est-à-dire, ils se rendent bien compte qu'au niveau de Yaakov, il y a une souffrance. Yosef a disparu, Yosef n'est plus là. On ne peut pas imaginer les Shvatim, les Shifteka, ceux qui vont être l'ossature du peuple d'Israël, être des individus sans cœur, sans sensibilité, durs comme ça, et de voir... Alors déjà, il y a les pleurs du frère qui se voit jeter dans ce fameux puits, mais en plus, il y a la souffrance du père. Donc évidemment, ils doivent avoir construit une certitude très très forte à l'intérieur d'eux qui leur permet de résister à ce qu'ils voient en face, c'est-à-dire une souffrance et une difficulté. Mais au fond... on sait qu'on a raison, on sait que c'est comme ça qu'on devait faire. Il n'y avait pas le choix. Pourquoi ? Ben parce que, évidemment, quand Yosef a fait ça, ça veut dire ça et ça ne veut rien dire d'autre. On va voir par la suite de l'histoire que leur lecture n'était pas la seule. Et c'est ça qui va être bouleversant. Et donc, je crois que, pour nous, en ce qui nous concerne à nous, il serait très intéressant de faire cet exercice très simple et de s'imaginer que nous sommes convoqués, pardonnez-moi, à l'école, et qu'on nous dise que notre enfant a fait une bêtise. On ne peut pas dire qu'il ne l'a pas faite, il l'a faite. Et donc, on va voir dérouler par la direction. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, parce que vous comprenez bien, s'il fait ceci, ça veut dire cela. Je suis sûr qu'on va leur proposer d'autres hypothèses de lecture. On ne va pas dire qu'il ne l'a pas fait. On va dire, mais quand il le fait, c'est peut-être parce qu'il a besoin de se rendre intéressant, parce qu'il ne se sent peut-être pas très bien dans sa peau. Quand il le fait, il ne se rend pas toujours compte, parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais vécu. Que sais-je ? On va créer d'autres hypothèses. Eh bien, essayons, en effet, lorsqu'on est confronté à une parole, à une posture, à une attitude de l'autre, d'imaginer quelles sont les différentes manières de le comprendre et surtout de s'interroger, de se dire « Mais c'est quoi la première idée qui m'est venue en tête ?» Et parfois, c'est assez bouleversant parce qu'on voit que souvent, la première idée qui est venue en tête, elle est à charge. Elle est négative. C'est une lecture négative. Alors que parfois, on est dans une situation neutre. Pourquoi c'est cette lecture qui arrive en premier ? Ça ne serait pas inintéressant aussi de s'interroger par rapport à soi-même.
Quand on pense aussi au fait que l'autre, lui aussi, a une vision qui est fausse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, il y a un très grand penseur de sciences politiques qui s'appelle Mills. Il dit, quelle image on a de soi? Alors on imagine, bah, mon opinion, ce que je pense moi, et puis c'est vrai que ça doit être matiné, ça doit être mélangé avec l'idée que les autres ont de moi, voilà, et ça fait l'image que je crois donner. Non, il dit, l'image que vous avez de vous, c'est ce que vous croyez que l'autre voit de vous. C'est tellement mourcave, comme on dit en hébreu, c'est ce que vous croyez que lui voit, c'est rien à voir en fait avec la réalité. Si on y pense deux minutes, on boit vos paroles, Ravelli Lemel.
Mmh. C'est vrai que c'est pas juste quelque chose.
Je vais vous donner un autre exemple en tant que avec une expérience de journaliste, sans votre érudition. Le fort ne crie pas. Je vous donne un exemple. Pendant des années, Benjamin Netanyahu était premier ministre. Il ne criait pas. Il disait à l'Iran :« Je vous préviens, on ne vous laissera pas nous faire mal. » Poutine ne crie pas. Le fort ne crie pas. Celui qui crie, c'est celui qui se sent en faiblesse. Combien de fois, nous, on a pensé totalement le contraire? On voit un mec qui crie, on pense pour qui il se prend. Etc. Le fort ne crie pas. Et c'est vraiment juste un journaliste qui vous dit ça. Ça vaut ce que valent les paroles d'un journaliste. En tout cas, on a vraiment bu vos paroles, Ravi Lemel, une fois encore d'ailleurs. Je vous souhaite une bonne semaine qui nous amènera vers les fêtes. Et donc, avec votre permission, je vais... me faire le plaisir déjà de vous dire à vous et aux auditeurs Hanouka Sameach une semaine avant. Vous me donnerez ce, comment dit-on, cette licence, j'ai le droit à aller une semaine avant, ça fait plaisir. Également de bonnes fêtes de Hanouka.
Hanouka Sameach, Shavua Tov à tout le monde.
Shavua Tov, Ravi Lemel.
On se retrouve dans un instant pour la suite de Melave Malka. Maria Chadret est en ligne avec nous à présent. Bonsoir, Maria Chah.
Bonsoir, Shavua Tov.
Maria Chah, on continue l'étude de notre paracha de cette semaine et vous voulez intervenir sur un point très précis. Vous voulez dire, Yosef, c'est celui qui nous apprend à être consistant. C'est celui qui nous apprend à comprendre la spécificité de chacun, y compris la sienne. C'est pas toujours facile, contrairement à ce qu'on croit. J'entends le « y compris la sienne ». Quel est ce message de Yosef que vous voulez développer à présent, Maria Chah?
Ouais, alors en effet, hein, et on parle toujours de Yosef à la proximité de Hanouka, toujours, toujours, c'est les parachiotes de Hanouka et juste avant Hanouka, parce que c'est aussi, Hanouka c'est aussi ça, c'est la fête de l'anti-assimilation, de la consistance, de la singularité, vraiment j'insiste sur ce terme, la singularité. Yosef est vraiment celui qui a pu rester lui-même en Égypte, en étant esclave. Alors, je pense aussi bien à tous ces événements quand il était l'esclave de Potiphar et qu'il se sentait en permanence accompagné par Hachem, qu'il avait de la tzlacha, de la réussite, et qu'il sentait ce lien. Il s'est senti certainement oublié de tout, sauf de Dieu. Et d'autre part, bien sûr, la fameuse épreuve de Yosef avec la femme de Potiphar, dans lequel on se demande mais comment a-t-il pu résister à, on lui apporte un peu de chaleur dans un monde de brutes où il est en effet, on se souvient vraiment oublié de tous, esclave depuis tant d'années, et il va réussir à résister. Et c'est lui, Yosef, dit-on que spirituellement, c'est celui qui a préparé la descente des Béné Israël en Égypte et leur capacité à ne pas s'assimiler, à ne pas s'uniformiser avec le monde qui les entoure. Alors, je voudrais commencer par réfléchir sur le début de la paracha, qui parle de situations que nous connaissons tous très bien, soit dans notre fratrie avec nos frères et sœurs, soit en tant que parents avec concernant nos enfants. Cette difficulté là on voit le verset, hein, l'exprime, le dit très clairement que Yaakov a une préférence pour un de ses fils, donc pour Yosef. Et tellement que quand les frères voient, je cite le verset hein, dès le début, « qui oto a avaviem mikol echav », que leur père aimait Yosef plus que tous les frères, eh bien ils l'ont détesté. Et on a ici évidemment la paracha qui nous offre la possibilité de réfléchir à la notion d'uniformité et de singularité. Je vous dis, Yosef est ce qui représente la singularité. Il fait des rêves singuliers. Il fait des rêves où il voit ses frères, tantôt sous forme de gerbes de blé, tantôt sous forme d'étoiles. Donc il y a le monde matériel et le monde spirituel ici qui sont convoqués. Et il les voit en train de se Ça signifie qu'il se croit supérieur. C'est ce que les frères interprètent. Ils l'interprètent de façon fausse, parce qu'en réalité, Yosef n'est pas encore capable d'interpréter des rêves. C'est qu'à la fin de la paracha qu'il saura interpréter. Et donc, le grand rêveur Yosef ne sait pas encore interpréter. Il se demande lui-même, mais qu'est-ce que c'est que ces rêves-là ? Et en réalité, ces rêves-là viennent exprimer des fois, non pas la soumission, mais peut-être la responsabilité. Yosef se sent responsable. Et ça, ça relève de la singularité. Il va en effet être responsable de nourrir ses frères, sa famille, en Égypte, c'est les gerbes. Et il va être responsable aussi de leur rappeler leur consistance et leur singularité à eux. Et ça, c'est au niveau spirituel, c'est donc le rêve des étoiles. En réalité, on peut on doit se poser la question, est-ce que nous aussi, on ne sombre pas, comme les frères de Yosef, dans cette illusion d'uniformité, dans cette illusion que finalement tous les enfants sont aimés de la même façon, on a envie de le dire, et tous les enfants posent la question à leurs parents, papa, maman, qui tu aimes le plus, et on est tous très prompts à répondre, mais enfin, mon enfant, mais comment peux-tu penser que j'en aime un plus que l'autre, etc. Et en réalité, il est évident que nous aimons nos enfants de façon différente. Je dis bien différente. Je ne vais pas dire l'un plus que l'autre. Ça ne veut rien dire plus que l'autre. En réalité, de façon différente, ça veut dire qu'ils ont chacun une singularité, une unicité, et que notre amour est différent. Évidemment, on n'aime pas de la même façon le premier fils, la première fille, le premier enfant, le petit dernier, celui qu'on a attendu pendant 10 ans, que sais-je. Chacun vient et nous renvoie à d'autres paramètres de notre propre vie. Et donc, ce serait vraiment un leurre que de dire que nous aimons tous nos enfants de la même façon. Et puis, il est évident que Yosef, qui est le fils de Rachel, qui a été attendu des années du fait de la stérilité de Rachel, et en plus, Rachel était la femme souhaitée de Jacob. Donc, il est évident que Yosef a cette caractéristique. Et il ne faut pas confondre une caractéristique et une spécificité avec une supériorité. C'est là l'erreur des frères. Et c'est là l'erreur que je crois que nous faisons tous quand nous essayons d'uniformiser. Et finalement, cette idée d'uniformisation, c'est l'idée de la Grèce, c'est l'idée de l'Occident qui va chercher à créer un consensus ou à une pensée commune, à une politique commune qui pourra créer le lien. Mais ça voudrait dire que l'on gomme les différences. Et Yosef est celui qui comprend qu'il y a des différences et qu'elles ne doivent pas être gommées. C'est vrai dans le couple. Fonder un couple... Pardon, ce n'est pas se fondre à l'autre, ce n'est pas devenir une extension de l'autre. Être dans la fraternité, être proche de son frère, de sa sœur, ce n'est pas adhérer à tout ses désirs d'errata ou être d'accord avec tout ce qu'il dit, mais c'est avoir un lien extrêmement fort, extrêmement puissant, mais dans la singularité, mais dans la différence. Une différence qui peut créer une unité. Et c'est à cela que nous invite de réfléchir Yosef. C'est à ça que nous invite de réfléchir les flammes de Hanouka. Dès demain soir, on va allumer notre première bougie de Hanouka. Rappelons-nous, c'est une bougie à l'intérieur de la maison qui éclaire vers l'extérieur. Donc c'est une bougie qu'on n'a pas le droit d'utiliser, uniquement de regarder. C'est-à-dire que c'est une bougie qui vient symboliser l'essence profonde, l'intériorité. Et cette intériorité, eh bien, plus elle est consistante, plus elle va pouvoir se dévoiler à l'extérieur. Et Yosef va travailler cette singularité tout au long de ses années en Égypte, jusqu'à même être capable de résister à la femme de Potiphar, et jusqu'à être capable de, même au fin fond du cachot, alors qu'il a été mis en prison pour un crime qu'il n'a jamais commis, même bien au contraire. Ce crime, ce faux crime, est l'expression du fait qu'il est resté dans toute sa singularité et son authenticité, dans un monde, rappelons-nous, l'Égypte, un monde où il n'y a aucune mœurs dans le domaine de la fidélité, aucune, absolument aucune. Donc l'ambiance qui prévaut en Égypte, c'est de se laisser aller. Et il garde cette consistance extraordinaire. Et la fin de la paracha est incroyable. Encore, on termine la paracha avec deux rêves. Elle s'est ouverte avec deux rêves, elle se termine avec deux rêves. Et là, la deuxième personne qui raconte son rêve, elle fait aussi l'erreur de croire à l'uniformité. La première personne qui a fait un rêve, c'était donc le maître Échanson qui raconte son rêve et qui a été, Youssef lui propose une interprétation merveilleuse qui est que dans 3 jours, il sera à nouveau, il va reprendre ses fonctions et il va sortir de prison. Et en entendant, la Torah le précise, que le deuxième rêve, la deuxième personne qui rêve, eh bien, elle entend que la première personne, que le maître Échanson, a eu une bonne interprétation du rêve, et donc il vient et le maître Panetier va également raconter son rêve. Mais pourtant, l'interprétation n'est pas la même, parce qu'il s'agit de 2 personnes différentes. Il n'y a pas d'uniformité. Et donc, il raconte son rêve en se disant « il va certainement bien me l'interpréter ». Et là, pour le coup, l'interprétation n'est pas du tout la même. Au contraire, dans 3 jours, il sera mis à mort. Et donc, on voit ici encore, à la fin de la paracha, cette différence absolue qui est mise en place entre 2 personnes. Ne croyez pas à l'uniformité. Et enfin, même l'événement, on va dire au milieu de la paracha, qui vient couper en 2 la paracha, l'événement de Yehuda et Tamar. Rappelons-nous, Tamar, qui est elle aussi une grande oubliée de cette paracha, et qui attend inlassablement qu'on veuille bien la libérer de la mitzvah de Lévira, de mettre au monde donc un enfant qui serait une continuité du défunt mari, eh bien elle attend, et finalement elle prend les devants, elle devient active, et elle va susciter un lien avec Yehuda lui-même, et rappelons-nous que ce lien étrange va donner naissance à la lignée du Mashiach. Que s'est-il passé? Eh bien juste avant, son deuxième époux est mort, parce que il ne voulait pas donner de continuité à son frère. C'est écrit encore une fois textuellement dans la Torah que Onan savait que sa descendance ne serait pas la sienne. Alors bien sûr c'est la sienne, bien sûr il est le père biologique, et lui aussi, eh bien il ne veut pas de cette différence. Lui aussi il veut de l'uniformité. Il veut que quand quelque chose est à lui, il soit que à lui, et il veut certainement pas accepter de pouvoir faire vivre autre que lui, c'est-à-dire à savoir son frère défunt, et c'est la raison pour laquelle il ne donne pas d'enfant à Tamar. Donc en fait on voit qu'il y a un point commun, un fil rouge du début à la fin de la paracha, ce fantasme d'uniformité dans lequel nous parents, je le répète, nous tombons tous en voulant faire croire que tous nos enfants sont pareils, et on leur donne à tous la même chose, et que on leur accorde à tous les mêmes privilèges, ce qui est faux. Et je crois que si on a la possibilité de dire qu'il y a une distinction, telle la flamme, 2 flammes ne sont jamais identiques, et bien 2 enfants ne sont pas identiques, dans le couple nous sommes différents, et chacun garde sa différence, et c'est ok, et ça ne porte pas préjudice au couple d'être chacun dans sa réalité, dans sa particularité, et bien en réalité, en voyant très clairement les différences des uns des autres, de chaque personne dans la paracha, de Yosef qui est différent de ses frères, de Tamar qui est différente, de Er et Onen qui doivent être différents, de Yehuda aussi qui est différent, des 2 personnes qui font des rêves, les 2 maîtres qui font des rêves à la fin de la paracha, eux aussi sont différents. Et je crois que plus on mettra en avant les singularités des uns et des autres, eh bien plus on pourra créer de l'unité. La véritable unité, ce n'est pas celle qui gomme les singularités, c'est celle qui associe les singularités. Alors à la fête de Hanouka, moi j'invite tous les parents qui nous entendent à mettre en avant les singularités de leurs enfants. On m'a posé la question récemment, mais est-ce que vraiment c'est si important de donner des cadeaux à Hanouka? Est-ce que c'est vraiment une habitude de chez nous? Alors je ne sais pas, moi j'y tiens beaucoup, et je l'explique en disant que de faire un cadeau à quelqu'un, c'est réfléchir à sa singularité, parce que si on veut faire plaisir à quelqu'un, on réfléchit à ce qu'il aime lui, à ses passions, à ses besoins, et se faire des cadeaux, c'est se dire les uns aux autres, tu es unique, tu es irremplaçable. Alors c'est le moment, achetez vos derniers cadeaux pour Hanouka et mettez en valeur les singularités des uns et des autres pour créer de l'unité.
Ah bah oui, cette fameuse très belle idée que vous nous rappelez, de savoir on fait un cadeau pour faire plaisir à la personne et pas à soi. Parce que ça, c'est vrai que c'est fondamental. Et je crois qu'au-delà du mot singularité, que vous avez beaucoup défendu dans ce cours, c'est aussi l'apport, c'est l'accès à l'altérité, le dialogue. On n'est pas tous pareils, c'est pas Google, tout se ressemble, il n'y a pas de hiérarchie des choses, tout vient comme ça. Ce monde un peu qui nous étonne, dans lequel nous vivons aujourd'hui. On a pas tout, hein, vous êtes d'accord avec moi?
Ah oui, oui, oui. Vraiment, absolument. Ne ouais. pas uniformiser tout ça.
Ouais. Maintenant, ça va jusqu'au bout. On va nous dire qu'il n'y a pas de genre, qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes. Tout est pareil. Bref, je vous remercie, Maria Chadray. Et avec quelques jours d'avance, c'est un immense plaisir pour moi de savoir que je suis l'un des premiers à vous dire Chag Sameach.
Ouais, Chag Orim Sameach. Que les lumières illuminent vos foyers. Amen. À tous et à toutes.
Amen. Shavuot.
On se retrouve dans un instant pour la suite de Me Lave Malka.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai, Shavuot Tov, Chanukah Sameach.
Etc, etc. Shavuot Tov, Chanukah Sameach, Chodesh Tov, Rangech Mevorach, toutes les brachot.
Que des bonnes choses. Et avant toute chose, une bonne bracha qui nous vient de Jérusalem, ça fera de mal à personne. Rav Mordechai Biton, vous allez essayer de faire le lien entre notre paracha, Vayeshev, Yosef, c'est vraiment une paracha qui est considérée comme très importante autour de Yosef et Chanukah.
Alors oui, effectivement, on a une grecque d'abord dans les Sifrei HaChassidut et dans tous les Sfarim, les livres qui parlent du Sod, de la quatrième partie de la Torah, qui s'intéresse au Sod, à la partie la plus voilée, on va dire, de la Torah. L'explication est la suivante, il y a toujours un rapport profond entre le Shabbat qui précède le Chag, la fête, et la fête elle-même. Dans ce Shabbat, le Shabbat, alors les gens vont nous écouter après Shabbat, mais ils seront au moment de Melave Malka, donc il sera encore temps pour eux de prier pour bénéficier de cet influx. Dans ce Shabbat, on reçoit un influx qui est lié directement à la fête. Alors Chanukah, c'est quoi? C'est la fête. C'est une fête finalement dans laquelle on va se réjouir finalement de la victoire de l'âme juive, de la Neshama juive, de la Chochma, la sagesse d'Israël, contre la sagesse grecque, importé donc par les Assyriens qui voulaient l'imposer par la force. Et donc nos sages ont essayé de trouver, tous les commentateurs essayent de trouver un rapport entre Parashat Vayeshev qui raconte donc les machloquettes, les dissensions qui ont opposé Yosef à ses frères, à la vente de Yosef par ses frères, puis Yosef se retrouve en Égypte, en prison plus tard, pour des raisons injustes, et puis là il va interpréter les rêves du Sar Hamashkim, donc du maître échanson et du maître panetier. Et il va prédire à l'un qu'il mourra et à l'autre donc qu'il va vivre. Alors là, c'est très intéressant parce que j'ai sous les yeux un texte de Rav Boyer qui cite plusieurs... Rav Boyer étant un monsieur qui fait de grandes révolutions dans le domaine de la thérapie. La thérapie en utilisant les outils théoriques de la Torah. Il a un texte ici très intéressant où il établit un lien très surprenant entre Parashat Vayeshev, la parashat donc de cette semaine, et la parashat Nassau, qui est une paracha qui se trouve dans le livre de Bamidbar. On va faire le lien avec Chanukah très rapidement. De quoi s'agit-il? D'abord, on voit que lorsque Yosef interprète les rêves des deux dignitaires égyptiens qui sont en prison, le maître échanson et le maître panetier, il utilise les mêmes termes. Il dit à l'un et à l'autre, « Sache que Yissa Paro et Roshra. » Paro va lever ta tête, il va élever ta tête littéralement. Mais alors, il va l'utiliser pour l'un et il va continuer le verset en disant « Pharaon va te faire vivre ». Par contre, pour le maître panetier, il dit par contre « Toi, Paro, Pharaon va te pendre ». Alors, dans le Midrash, pour comprendre un peu ce mot « Yissa » qui fait référence à Nassau, c'est-à-dire « porter, supporter, élever », il cite un Midrash qui se trouve donc sur Parashat Nassau. Il est écrit là-bas que Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre de compter Nassau et Trosh Bene Gershon, de compter les têtes, c'est-à-dire les membres de la tribu de Gershon. Et là-bas, le Midrash dit la chose suivante. Il dit, il faut le faire, Kessar Abashkim, comme le maître échanson, et le Sarah Ophim et le maître panetier dont il a été question dans Parashat Vayeshev. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il y a un lien entre la solution des rêves donnés par Yosef dans notre paracha, et en quelque sorte, il y a deux acceptions du mot « tête », c'est-à-dire soulever une tête. En fait, et pour résumer, la question est la suivante. Le maître Échanson avait en quelque sorte développé toute une série de pensées positives du Midrash. Il disait, je vais à partir de maintenant respecter Pharaon, je suis sûr que je me sortirai de là où je suis certain que Pharaon comprendra que j'ai fait une erreur, il acceptera ma réponse et il acceptera de me sauver. Par contre, le maître Échanson, le maître Panetier, lui, pensait qu'il allait mourir. Il pensait que tout était perdu. Il pensait qu'il était absolument impossible de se sauver de cette affaire. Et donc, lorsque Yosef va interpréter les rêves des deux, en fait, il voit ce que chacun pense dans sa tête. C'est-à-dire comment chacun voit, en quelque sorte, sa tête représentant ici le lieu dans lequel se trouve la chorma, la sagesse, la bina, la compréhension. Et il voit comment chacun va réfléchir. Et il dit, celui-là, le maître Échanson, celui qui versait le vin à Pharaon, qui était un ministre extrêmement important à la cour de Pharaon, eh bien celui-là, il va vivre. Parce qu'il réfléchit de manière qui est extrêmement positive, il réfléchit avec une tête qui est une tête de réparation, il voit l'avenir. Par contre, l'autre, il réfléchit avec une tête qui ne voit rien devant lui, de l'obscurité complète, et donc celui-là, il va partir. Et là, nos sages disent la chose suivante. Il y a finalement... concernant le roche, la tête et ce qui se passe dans le cerveau, il y a deux processus. Il y a un processus qui est le processus grec et le processus qui est celui d'Israël. Dans le processus d'Israël, lorsque l'on voit l'obscurité, on peut voir l'obscurité de deux manières. On peut considérer qu'on est maintenant dans l'obscurité, qu'on ne comprend rien à ce qui se passe, mais que malgré tout on continue de croire que Hachem nous sauvera. Je suis assis dans l'obscurité, dit Hana, mais Hachem est ma lumière. Mais il y a un deuxième degré qui est beaucoup plus élevé, qui est de comprendre que si par exemple je fixe une torche directement, je n'ai pas voir de lumière, je vais voir un point noir. Et le juif, lorsqu'il se trouve dans l'obscurité, peut tout à fait penser qu'il voit du noir, mais qu'en fait c'est une lumière extrêmement puissante qui lui est proposée, et que simplement il ne peut pas la saisir maintenant. Il y a donc deux manières de voir ici une phase d'obscurité, soit une phase de émouna, de foi, je suis dans l'obscurité, mais je serai un jour délivré, soit en fait je suis conscient que je ne peux pas percevoir toute la lumière de l'événement terrible, certes, que je vis, mais en vérité, il y a ici une lumière et il y a ici quelque chose, Hachem, en fait, en quelque sorte, en train de m'envoyer une lumière. Alors cette semaine, on a eu une illustration de ça, il y a une vidéo qui tourne actuellement sur les réseaux, il y a un monsieur qui a été victime de l'attentat qui a été perpétré à Jérusalem. Alors lui, c'est absolument extraordinaire parce qu'il raconte, il dit « moi j'ai vécu les deux ». Au moment où il y a eu l'attentat, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de terrible, j'ai essayé de partir en arrière, il a reçu une balle, et figurez-vous que la balle, elle l'a perforé, il revenait de la tefila, il a pris avec cette tefiline, la balle l'a perforé exactement à l'endroit où il avait cette tefiline. Elle a traversé le boîtier de tefiline et le bras, et ensuite, donc, elle est sortie, et il a été sauvé grâce au fait qu'il y avait cette tefiline qui ont amorti en quelque sorte le choc de la balle. Donc, en quelque sorte, lui, il a vu l'obscurité, mais en même temps, il a vu la lumière. Et c'est de ça dont on parle. Dans l'épisode de Hanouka, pendant plus de 100 ans, les Juifs ont vu l'obscurité et la lumière. Ils ont vu l'obscurité parce qu'ils étaient condamnés à croire que peut-être un jour Hachem allait les sauver, pour ceux qui avaient cette émouna et cette foi. Mais il y en a d'autres, c'est les Hashmonaïm, qui eux, par leur Messirut Nefesh, par leur abnégation, ont vu que cette période d'obscurité, cette période de persécution, était en fait une période de lumière dans laquelle le peuple juif allait pouvoir montrer son attachement à Hachem. Et donc c'est l'enjeu ici. L'enjeu ici de Hanouka, il y a deux têtes. Il y a la tête qui finalement, dans l'obscurité, voit le futur possible, mais voit dans l'obscurité elle-même une raison d'espérer. Et il y a la tête qui, dans l'obscurité, ne voit que l'obscurité, la défaite, la destruction. Et c'est un lien ici intime, en quelque sorte, un lien profond qui est dressé ici par les commentateurs entre cette paracha de Vayeshev et cette paracha donc de cette fête de Hanouka. Il faut rappeler ici que Yosef, lorsqu'il part en exil, Yosef va rester. Yosef HaTzadik, il est le symbole même de la Tzidkout, puisqu'il est le juif, l'archétype du juif qui se retrouve plongé dans l'exil, l'exil égyptien, qui est un exil profond, qui est un exil du Da'at, qui est un exil intellectuel, psychique, moral, religieux, spirituel. Et donc là-bas, il va non seulement voir l'obscurité, mais en même temps, il espérera, mais en même temps, il comprendra que dans cette obscurité-là, il doit y avoir quelque chose à être metaken, quelque chose à réparer. Et on verra par la suite, dans les parachas suivantes, que Sèvres va s'appliquer à préparer en quelque sorte le séjour de ses descendants en Égypte de manière à ce qu'il puisse être sauvé. On le verra notamment dans la paracha, dans la paracha de Niketz. Bon, et moi, ça à tous et à tous de vous souhaiter Chanukka Sameach et de rappeler une chose. Le premier jour de Chanukka, le 25 Kislev, n'a été institué comme jour de fête que l'année suivante de la victoire des Asmonéens. Pourquoi ? Parce que dans leur esprit saint, les dirigeants asmonéens ont vu que l'influx, les forces spirituelles qui leur avaient permis de gagner la bataille l'année d'avant se remanifestaient l'année suivante alors qu'il n'y avait plus de guerre. Ils ont donc compris que la date du 25 Kislev était une date qui portait en elle une force, une sainteté particulière. Et ils se sont rappelés notamment ce que le Midrash nous dit, c'est que le 25 Kislev, quelques centaines d'années plus tôt, le Beth Amidash, le tabernacle, était prêt à être inauguré dans le désert, mais que Dieu a dit « on ne va pas l'inaugurer, on va laisser cette date pour plus tard ». Cette date, elle portait une sainteté, une force d'inauguration particulière sur le plan spirituel. Finalement, dans le désert, le tabernacle sera inauguré, par contre, le premier Nissan, pas le 25 Kislev. Le 25 Kislev portait en lui cette date très particulière. Et donc, ce jour-là, nous disent nos sages, de toutes les obédiences, les portes du ciel sont ouvertes. Et au moment où vous allumerez la première Hanouka, ne vous précipitez pas pour aller manger les beignets, priez. C'est un moment où toutes les portes du ciel sont ouvertes selon tous nos maîtres, de toutes les tendances, de toutes les obédiences. C'est le moment de prier pour obtenir toutes les Yeshua, toutes les délivrances. Et je souhaite à tous et à tous que vos prières soient entendues, que nos prières soient entendues, et que nous méritions une année d'abondance et de délivrance. Bezrat Hashem.
Ben on le souhaite tous avec vous, Rav Mordechai Biton. On prendra quand même les beignets, le prenez pas mal.
Non, non, bien sûr, on va aller,
pas prenez pas mal, on
ça
le fera aussi.
On va les manger au bout de 5 minutes, on se prendra une petite demi-heure.
Ah après, oui, prendre quelques minutes à regarder les bougies, ça c'est sûr, ça c'est certain. Prendre le temps de bien regarder, de rester, de profiter avec les enfants, avec son épouse, avec son mari si on est une dame. Rav Mordechai Biton, je vous souhaite de nouveau Chanukka Sameach. Je rappelle, on m'a demandé de le faire. Alors oui, on m'a demandé hier, on m'a dit faites bien attention de préciser que cette émission est enregistrée, mais évidemment qu'elle l'est. Les rabbanim ne viennent pas le samedi soir à Radio Shalom. Malheureusement, j'adore vraiment passer mes soirées, mais je précise avec plaisir que c'est enregistré et je vous remercie vraiment d'être habité. Bonsoir à vous. Shalom leivoy naboy, Hashem lo yishmarich, shav shokat shoymei, Hashem lo yine bayis. Shalom leivoy naboy, Hashem lo yishmarich, shav shokat shoymei.